Le vicaire des Ardennes, quatrième partie. Chapitre 8. Histoire de deux créoles. En écrivant l'histoire de ma jeunesse, j'essaie de placer un phare sur la plus orageuse des mers, espérant ainsi éclairer mes frères sur les dangers que renferment les sentiments et les affections les plus naturels.
Ces écrits lui ressemblent,
s'écria le curé en jetant un regard vers le ciel.
« Pauvre jeune homme, il a été bien malheureux à ce qu'il paraît. » « Et pourquoi chercher à me tromper moi-même ? » continua Marguerite. « Dieu ne sait-il pas que si j'écris mes aventures, c'est pour m'occuper d'elles encore ? À quoi bon ces détours ? Ne commençons pas un récit véritable par un mensonge. Je suis prêtre, je dois m'en souvenir. » Ô religion, présence céleste, toi seul me soutiens. Donne-moi la force d'achever, avant que la mort que je vois arriver à pas précipités ne vienne m'interrompre. Je t'invoque, je te dédie toutes mes pensées, quoi qu'elles concernent toute la douce, la pure Mélanie. Il est dans ma vie des circonstances et des faits qui ne sont venus à ma connaissance que bien tard. Cependant, au lieu de les placer à l'époque où je les ai appris, je suivrai dans ces mémoires l'ordre naturel d'un récit, et je classerai les faits de façon à ce qu'ils présentent une histoire suivie. Je suis né en France, où je l'ignore. De qui ? Je l'ignorais longtemps. Ma naissance fut enveloppée des voiles les plus mystérieux, et en ce moment même, les faits qui sont venus à ma connaissance ne sont appuyés d'aucune preuve légale et authentique. Aussitôt que je vis, dernièrement, au nez le vicomte, j'eus un vague souvenir d'y avoir été nourri et d'y avoir passé les 4 premières années de ma vie. Ce qui m'a donné ce soupçon, c'est que j'ai toujours eu dans la mémoire le paysage donné gravé d'une manière ineffaçable, et qu'à la première promenade que je fis avec le bon curé, je fus stupéfait en reconnaissant au sortir du village, du côté des Ardennes, le poirier sous lequel ma nourrice me déposait ordinairement lorsqu'elle allait travailler dans un champ voisin. Ma nourrice était une grosse paysanne, j'ai vainement cherché sa chaumière. Si elle existait encore, je la distinguerais entre 1000 semblables. Cette habitation annonçait la pauvreté. Cependant, ce toit de chaume était souvent visité par un ecclésiastique qui me prenait sur ses genoux, me souriait, voulait me faire rire et parler, et me couvrait de baisers. J'avais 3 ans et demi. Un matin, ma nourrice était sortie pour aller travailler dans les champs, et restée seule dans la maison, je jouais, lorsque 2 hommes entrèrent brusquement. Je reconnus l'ecclésiastique qui parlait vivement à un militaire. Après une longue altercation qui n'avait rien d'offensif, car ces 2 hommes paraissaient amis, le militaire me prit, m'enveloppa dans son manteau, monta en voiture, sortit du village, et au bout d'un certain temps, sur lequel il ne me reste aucune idée distincte, je me trouvai dans une grande ville au bord de la mer. Enfin, quelques jours après, je fus transporté dans une chaloupe et de la chaloupe dans un vaisseau. Voici en peu de mots tout ce que ma mémoire me fournit sur mon enfance. Ce militaire, capitaine de vaisseau, était Monsieur le Marquis de Saint-André, mon père. Quant à ma mère, jamais je ne l'ai vue. Nous allions à la Martinique. Monsieur le Marquis de Saint-André me donna d'abord peu de marques de tendresse. Sa femme, à ce que l'on m'a dit, avait émigré et n'habitait plus la France. On ne me donna pas d'autres renseignements, et toutes les fois que je questionnais mon père sur ce point, il m'imposait silence. « Et quoi ? » pensais-je, lorsque je fus plus âgé. « Comment une mère a-t-elle pu abandonner son fils aîné ? Comment a-t-elle pu le reléguer dans un village, loin d'elle, et le confier aux soins d'une étrangère ? Et cette mère n'a pas tenté une seule fois de venir me voir ? Elle n'a pas bravé tous les dangers pour m'embrasser ? Ce fut toujours, et c'est encore pour moi, un mystère, dont je n'ai jamais pu soulever le voile. Il est vrai qu'enfant de la nature, et initié depuis peu aux inventions sacrilèges de la société, J'ignore les combinaisons qui amènent de pareils faits. Mon père était doué d'une grande énergie, passionné, sévère et même quelquefois dur. Je dois avouer néanmoins que, bien que j'aie souffert de sa brusquerie, il a souvent eu pour moi une bonté toute paternelle. Mais ce fut lorsque mes qualités morales se développèrent et qu'il crut que je pourrais un jour lui faire honneur. Monsieur de Saint-André était franc, généreux, brave à l'excès, instruit, ayant tout pour plaire, et n'y réussissant jamais, même lorsqu'il le voulait. Il faisait peut-être trop sentir sa supériorité. L'habitude de commander en souverain sur son bord avait contribué à féconder les semences d'orgueil et de hauteur que son âme contenait. Et ceux qui froissent l'amour-propre par leur seule présence peuvent être estimés, craints, admirés même, mais ils ne plairont jamais. Nous arrivâmes à la Martinique, et c'est dans cette île que j'ai passé la plus grande partie de ma jeunesse. Ici, je dois faire observer que la France était au fort de la Révolution, qu'alors le voyage pacifique de mon père est une nouvelle énigme dont je ne puis trouver le mot. J'ignore encore en ce moment si mon père existe, et lui seul pourrait m'expliquer ses contradictions. À la Martinique, le premier soin de mon père fut d'acheter une petite propriété éloignée de toute habitation et de m'y confiner en me remettant entre les mains de la femme d'un de ses contremaîtres. Madame Hamel et deux nègres ont été les seules personnes que j'ai vues jusqu'à l'âge de 9 ans. Madame Hamel devint presque une mère pour moi. Elle n'est pas spirituelle, mais elle a un excellent jugement, une âme pleine de douceur, de bonté et de vertus aimables. Dès l'âge le plus tendre, elle m'a inspiré la crainte de Dieu et m'a nourri des divins préceptes de l'Évangile. Monsieur de Saint-André ne resta pas longtemps à la Martinique. Je ne le revis qu'à des époques très éloignées. Mais sa profession ne lui permettait pas de longs séjours et il ne pouvait guère venir que lorsqu'il se trouvait dans les parages de notre île. Ainsi, mes premières années se sont écoulées loin des villes, loin des hommes, loin des vices. Je fus livrée à la nature, et je pus me dire son élève, car Madame Hamel ne me contraignit jamais. Elle me laissa suivre tous les penchants de mon âme, pensant, comme elle me l'a dit, que les hommes naissent bons, et qu'en les préservant de la civilisation, on leur donne, par cette seule et simple précaution, la plus belle éducation possible. La pauvre femme a été la cause bien innocente de tous nos malheurs. Cette bonne Madame Hamel ne pensa pas une seule fois à me faire étudier les sciences. Elle n'a jamais compris que le latin, les mathématiques, etc., pussent être essentiels au bonheur de l'homme. Je mets en fait qu'elle ne sait pas si la Martinique, qu'elle a habitée pendant la moitié de sa vie, est sous le tropique du Cancer ou sous celui du Capricorne. Elle ne connaît pas la différence des plantes d'Amérique avec celles de l'Europe. Enfin, elle ne m'a montré que bien peu de choses, au dire de la plupart des hommes. L'instruction qu'elle me donna consistait en quelques maximes plus difficiles à pratiquer qu'à retenir. « Mon ami, me disait-elle en jetant sur moi un regard attendri, sois digne du nom de Joseph, fais le bien pour le bien, respecte la vieillesse et l'enfance, car tu es enfant et tu seras vieillard. Ne te moque de personne. Ne nuis à qui que ce soit, pas même aux animaux les plus petits. Préfère le bonheur d'autrui au tien. Oublie-toi souvent. Admire l'univers et tire toi-même les conclusions de ce spectacle. » Ce qu'il y avait de mieux, c'est qu'elle prêchait d'exemple. Elle eut rougi comme d'un crime de trahir un nègre marron qui venait se réfugier dans les montagnes. Aussi, très souvent, ces malheureux fugitifs venaient nous apporter des fruits, des curiosités, et me protégeaient dans mes courses. Nos deux nègres adoraient cette bonne et aimable femme. Enfin, tout ce qu'elle me disait était appuyé par des actions vertueuses, accomplies avec cette simplicité qui doit en doubler le prix aux yeux de l'Éternel. Je vécus 5 ans sans connaître d'autres lois que ma volonté, d'autres lieux que les montagnes brûlantes et les forêts humides qui nous environnaient. j'avais reçu de la nature un caractère impétueux et passionné. Cette énergie terrible, entretenue par l'influence du climat que j'habitais, ne se déploya que dans deux passions qui furent pour ainsi dire son refuge, car dans tout le reste des sentiments, dans toutes les circonstances ordinaires de la vie, j'ai entendu vanter par les autres ma douceur et ma patience. La première de ces deux passions est un doux enthousiasme pour la religion de Jésus-Christ. Je fus chrétien par mon propre mouvement, et j'attribue cet entraînement de mon âme à la liberté dont j'ai joui. En contemplant cette immense nature de l'Amérique, j'ai senti naître dans mon cœur des sentiments élevés, et je n'ai trouvé que l'Évangile qui fut à la hauteur de ces merveilles. On y reconnaît la même main. Ce livre est, comme la nature, immense et simple dans son ensemble, et compliqué à l'infini dans ses détails, naïf et grand, varié, sublime. Les montagnes, les forêts m'ont rendu religieux, mystique, et longtemps j'ai vu le monde du côté le plus beau. Jusqu'à 9 ans, je parcourus les environs de notre demeure en n'ayant aucune idée arrêtée, et comme un jeune faon, jouant toujours, marchant d'étonnement en étonnement, grimpant sur les bambous, sur les rochers, sur les cocotiers, voulant, comme un jeune singe, tout voir, tout fureter. Souvent, je parvenais dans l'antre du nègre marron. Le pauvre fugitif reconnaissait en moi l'enfant que ses camarades lui avaient signalé comme le fils de Madame Hamel, et le nègre m'apportait une natte, me racontait son esclavage, sa fuite, ses dangers. Je pleurais avec lui, et il baisait respectueusement mes mains, parce que j'étais un blanc. Oh, souvenir de l'enfance, que vous êtes doux! Cette partie de ma jeunesse fut comme l'aube d'un beau jour. Mes jouissances pures, la fraîcheur de mes sentiments, le calme, la naïveté, tout contribue à me rendre délicieuse la mémoire de mes premiers pas dans la vie. Et je ne puis penser au son de la cloche de notre habitation sans donner à mon cœur une fête suave, douce et belle de toutes les harmonies que le ciel de mon île me révéla. Cependant, au milieu de mes promenades, il m'arrivait quelquefois de réfléchir. Je commençais à sentir dans mon cœur des sentiments vagues, des affections qui cherchaient à se fixer. Enfin, il me manquait quelque chose. Souvent, j'allais prendre un vieux nègre marron pour lui confier combien j'éprouvais de plaisir à voir un beau paysage et une roche pendante qui semblait vouloir tomber sur la source qui s'échappait à ses pieds. Je voulais qu'il partageât mes découvertes, car une belle aurore, un coucher de soleil, ne me plaisait plus autant lorsque j'étais seule à les contempler. La bonne Madame Hamel ne me fit jamais un reproche de ce que je l'abandonnais pour courir. Et cependant, la pauvre femme mourait de frayeur lorsque je passais une nuit dans la grotte de mon bon ami Fimo, le vieux nègre marron, le chef des fugitifs. J'avais 9 ans, et depuis 5 ans je n'avais pas revu mon père. Un jour, je revenais à notre maison, il était presque nuit, j'aperçus de loin beaucoup de lumière. Je courus pour savoir ce qui produisait cette clarté extraordinaire. En entrant dans l'avenue, bordée d'une haie de jeunes goyaviers, d'avocats, de jacques, d'agatis, je vis qu'il y avait beaucoup de soldats devant la maison. J'arrive et je revois mon père. Je lui sautai au cou et je l'embrassai. Quelle fut ma surprise en me retournant de voir à côté de Madame Hamel une petite fille âgée d'environ 5 ans. Madame Hamel la tenait sur ses genoux, et lorsque je la regardais, elle me jeta un coup d'œil qui n'est jamais sorti de ma mémoire. Elle était assise sur Madame Hamel avec une grâce qui semblait lui être naturelle. Son petit visage brillait de toutes les beautés de l'enfance. C'était un abrégé des perfections de la nature. Et sa pose enfantine, son naïf sourire, ses longues et grosses boucles de cheveux blonds qui retombaient sur son col frais et mignon. Ah, malheureux! Je vois encore tout au moment où j'écris ces lignes. « Mon fils, me dit Monsieur de Saint-André, je vous amène votre sœur. » À ce mot, j'embrassai cette charmante enfant. « Aimez-la bien, car c'est le vivant portrait de Madame de Saint-André, et c'est le seul que nous puissions avoir. » En disant ces mots, mon père versa quelques larmes. « Elle est morte, » continua-t-il, mais il ne put achever. J'appris la nouvelle de la mort de ma mère avec une indifférence dont je m'accuse encore, car je ne fus chagrin que de la douleur de mon père, et quant à moi, je n'étais nullement affecté. Cependant, le matin, j'avais pleuré amèrement la mort d'un jeune loxia que j'avais apprivoisé de concert avec mon vieux nègre. Lorsque Monsieur de Saint-André fut seul avec moi, ma sœur et Madame Hamel, il s'adressa à cette dernière et lui dit « Madame, je vous ai amené Mélanie parce qu'il y a encore trop de dangers pour nous en France et que je n'y connais personne à qui j'ai osé confier cette chère enfant. Aussitôt que nous pourrons revenir en Europe, je viendrai vous chercher. Vous savez quel danger je cours ici. Je vous quitte. C'est peut-être beaucoup trop d'y être venu. Je ne sais comment je vais faire pour rejoindre mon bord, mais ma troupe est nombreuse et bien armée. » Après cette courte entrevue, mon père m'embrassa, couvrit Mélanie de baisers et partit. Je voulus absolument l'accompagner jusqu'à la côte et le suivre pour participer au danger qu'il allait courir. Il m'ordonna de rester par un geste impératif et un regard absolu, à l'influence desquels il était impossible de se soustraire. Je rentrai dans la maison, et toute la soirée, mes yeux furent attachés sur la petite Mélanie. Une foule de réflexions vint alors m'assaillir, et je sentis naître en moi un attachement dont je n'avais pas d'idée. Le sentiment que j'éprouvais à voir cette jeune enfant est indéfinissable, et je vis avec joie qu'elle le partagea dans toute son étendue. Nous couchâmes dans la même chambre, non loin de Madame Hamel, car je voulus à toute force me charger de ma sœur. Dès lors, s'ouvrit pour moi une bien autre carrière. Il ne me manqua plus rien, et la passion la plus terrible jeta sourdement ses fondements dans mon âme. Tous les sourires de ma sœur m'appartenaient, de même que je ne fis plus rien qu'en son nom et pour elle. Je l'emmenais dans mes courses, que je proportionnais à ses forces naissantes, et chaque belle fleur que je rencontrais lui était offerte comme jouet. Chaque beau fruit, chaque nid d'oiseau, arrivait dans ses belles mains avant qu'elle eût eu le temps de le désirer. Où l'on apercevait Mélanie, on était sûr de me trouver, car nous n'allions jamais l'un sans l'autre. Un quart d'heure d'absence devenait un supplice pour tous deux, et notre plus chère étude fut de nous complaire l'un à l'autre. Fier de mon âge, de ma force, je rendais à Mélanie des services qui ne me coûtaient rien, tant je trouvais de douceur à l'obliger. Peine, fatigue, soins, danger s'effaçaient devant un de ses sourires. Si Mélanie, fatiguée, ne pouvait plus revenir, je construisais un siège avec des lianes, et l'adaptant à mon dos, je portais ma sœur jusqu'à la maison. Cette jolie fille me passait ses bras autour du cou, en laissant ses cheveux dorés se mêler aux boucles noires de ma chevelure, et mon cœur palpitait de joie lorsque je sentais la douce main de Mélanie qui essuyait la sueur de mon front. J'initiais Mélanie dans mes grands secrets. Je la menais dans mes routes favorites, chez les nègres marrons, nous gravîmes les rochers, et en voyant les pompes du couchant et les magnificences de l'aurore, je tâchais de lui faire comprendre le peu que je savais sur l'Éternel. Nous lisions ensemble ce qu'il a écrit sur la voûte des cieux, ce qu'il a tracé sur les sables de la mer, sur les feuilles des arbres, sur les ailes diaprées des oiseaux. Quant aux autres préceptes, le cœur naïf et pur de Mélanie les contenait tous. Et c'est surtout elle qui, en apprenant les sublimes obligations de l'homme envers l'homme, ne parut que se souvenir. Toute jeune, une bonne action, une pensée noble, découlait de sa bouche et de son cœur avec une facilité qui faisait croire que la vertu n'était pas un effort pour elle. Un jour, nous allons à la grotte du vieux Fimo. Nous arrivons à sa retraite, après avoir traversé les plus jolis sentiers et nous être livrés à la gaieté la plus franche. Le soleil couchant dorait toutes les cimes et disait adieu à la nature en l'enrichissant de ses belles teintes de couleur de bronze, d'or et de pourpre. L'air était calme, un funeste silence régnait aux environs de l'antre de Phimo. Nous approchons. Le malheureux venait de saluer le soleil pour la dernière fois. Étendu sur une grosse pierre couverte de mousse qui lui servait de siège, le pauvre nègre, immobile, ne respirait plus, et ses yeux fixes et ouverts annonçaient que l'homme de la nature meurt sans être entouré d'amis, parce que l'homme de la nature a horreur de la mort. Mélanie lui ferma les paupières, détacha son voile, le mit sur le visage du pauvre nègre, et s'agenouillant, elle me dit « Prions ». Non, par-delà la tombe, j'entendrai encore cette voix pure et touchante. Quel regard! Quelle attitude! Notre prière consista à contempler tour à tour et le nègre et le ciel. J'ignore ce que pensa Mélanie, mais je sais qu'alors mon âme s'éleva vers tout ce que la mélancolie et la religion ont de plus grand, de plus sublime et de plus élevé. Ensemble, nous nous relevâmes, et nos yeux étaient en pleurs. Quelque mérite que possèdent les longues prières des morts, je n'ai jamais entendu d'oraison plus belle que le « Prions » de Mélanie. Nous aperçûmes deux nègres qui cherchaient leur chétive subsistance. Nous les appelâmes à grands cris. Ils vinrent, en reconnaissant notre voix, nous les guidâmes vers le corps inanimé du bon Phimo. Ils firent une fosse sous un cocotier que Mélanie indiqua. Tous deux, muets et remplis d'une sainte attention, nous suivîmes, en nous tenant par la main, les deux nègres qui portaient Phimo sur leurs épaules. Enfin, nous le vîmes placé dans sa dernière demeure. En ce moment, par un accident naturel qui provenait de la disposition des lieux, un rayon de soleil vint illuminer cette fosse. « Dieu l'emmène ! » m'écriai-je. Lorsque la terre fut jetée sur lui, Mélanie dit « Nous ne le verrons plus ». On fit une espèce de tertre, et lorsque nous avions du chagrin, la tombe du nègre était l'autel où nous venions pleurer. En revenant, nous gardâmes le silence, mais en sortant de la forêt, ému de tout ce qu'avait dit Mélanie, je m'arrêtai, et regardant ma sœur, je lui dis avec la voix de l'âme « Ah, tu es un ange !» Elle ne me répondit que par un sourire et un gracieux mouvement de tête qui sont gravés dans ma mémoire avec tout ce qu'elle a dit et tout ce qu'elle a fait. Ce soir-là, nous ne mangeâmes pas, car en entrant, elle murmura « Joseph, on n'a pas faim quand on a du chagrin. » « Âme divine, mon bon Jésus !» s'écria Marguerite. « Voyez, monsieur, » dit-elle à monsieur Gauss en lui montrant le manuscrit, « voyez comme il a pleuré dans cet endroit. L'écriture est presque effacée. » Monsieur Gauss était trop ému pour répondre. Chapitre 9. Ce fut ainsi que nous passâmes le temps de notre enfance. Tout ce que les sentiments humains ont de plus naïf et de plus touchant embellissaient nos jeux et nos courses. Nos corps, n'étant pas déformés par les habillements ridicules qu'exige le séjour des villes, se développèrent rapidement, et les belles proportions que la nature, livrée à elle-même, enfante sans effort, nous donnèrent les 20 avantages de la beauté. Mélanie atteignit 12 ans. Sa jolie taille était presque formée. Elle se regardait déjà dans l'eau claire des fontaines pour arranger les milliers de boucles que formaient ses beaux cheveux blonds. Ses yeux bleus souriaient toujours et pourtant exprimaient la mélancolie. Elle chaussait son pied mignon avec une sandale artistement tissue par nos nègres et selon la coutume des îles, elle le laissait à nu. Rien n'était séduisant comme cette jeune fille, douée de toutes les aimables qualités des femmes. Maintenant qu'en évoquant ces douloureux et charmants souvenirs, je me rappelle le groupe admirable que nous devions former, lorsque, entrelacés au bord d'une fontaine, sous un rocher, au milieu des vastes colonnades antiques de la forêt et protégés par des buissons épineux, nous étions livrés au jeu de la jeunesse. Il me semble que les fameuses statues de la Grèce ne devaient pas être plus belles. Car quel que soit le feu divin qui ait répandu le génie sur ces créations, nous les surpassions par la naïveté de nos attitudes, la fraîcheur de nos visages, et, semblables aux deux ombres charmantes de ces amants dont parle Klopstock, nous n'avions pas besoin des paroles humaines pour nous faire part de nos sentiments et de nos pensées. Un geste, un sourire, un coup d'œil, un baiser tenaient lieu du langage. Nos âmes s'entendaient. L'habitude avait tellement fait passer nos cœurs l'un dans l'autre qu'il n'en existait plus qu'un seul. Je ne sais s'il y a beaucoup d'âmes qui se plairont à la simple description des événements qui marquèrent ces années de bonheur. Ils semblent appartenir à un autre temps qu'au siècle d'aujourd'hui. Mais la peinture n'en sera fade que pour des gens dont l'imagination n'a jamais entrevu les tableaux mensongers de l'âge d'or. Hélas, je puis dire avec orgueil que je l'ai connu pour mon malheur. Un jour, j'avais conduit Mélanie vers un lieu dont on ne peut avoir aucune idée en Europe. Que l'on se figure deux énormes pics séparés l'un de l'autre, à leur sommet, par un immense espace. Cette ouverture dans les airs ressemblait à celle d'un angle immense, car les deux montagnes se rejoignaient par leur base. Ainsi, le vallon du bas était extrêmement étroit. Chaque montagne présentait un aspect merveilleux par la végétation qui l'embellissait. D'un côté de la vallée, on apercevait la mer à une distance énorme, et de l'autre, un bocage disposé en cercle, au milieu duquel une source faisait entendre son doux murmure. Lorsque Mélanie fut à l'entrée de ce vaste et admirable paysage, nommé le Val Terrible, elle me regarda, me serra la main, et me montrant un fragment de rocher d'où l'on découvrait toutes ses beautés, assemblage prodigieux de toutes les ressources de la nature, « Je voudrais, dit-elle, que sur cette roche, sous ces arbres, l'on compléta le spectacle en bâtissant une chaumière entourée de fleurs, et plus loin, dans l'île qui se trouve au milieu de ce petit lac, je sens que je m'attendrirais en apercevant la tombe du nègre placée sous un tatamac. » Je reconduisis Mélanie à notre maison. Lorsqu'elle fut couchée, je m'échappai, et courant de toutes mes forces, je regagnai le Val Terrible. J'allais dans toutes les retraites des nègres marrons auxquels nous portions tous les jours leur nourriture. Je les rassemblais et, les amenant sur la roche où Mélanie avait exprimé son désir avec cette aimable légèreté de son sexe, je leur dis « Mes amis, Mélanie a dit qu'elle voulait voir là une habitation. Il faut la construire à l'instant. » Aussitôt, 7 à 8 nègres mettent le feu au pied d'une trentaine d'arbres qui ne tardent pas à tomber, pendant que d'autres creusent la terre et que d'autres cherchent de la mousse. Nous travaillâmes toute la nuit, et le jour nous surprit que l'ouvrage était bien avancé. Je ne sais comment je fis pour construire une chaumière selon les règles de l'architecture, mais j'ai vu dans les parcs des grands, des constructions champêtres artificielles qui n'étaient que des masures auprès de mon palais sauvage. Devant la porte s'élevaient 8 troncs d'arbres parfaitement droits qui représentaient des colonnes. Sur ces colonnes, on plaça transversalement un énorme cocotier. Puis, avec une adresse qui leur est habituelle, les nègres réussirent à poser sur cette architrave 2 gros troncs en triangle qui formèrent un fronton. Au bas des colonnes, ils disposèrent le terrain de manière que des marches naturelles firent une base au tronc d'arbre, et cette chaumière eut toute la tournure de la façade du Parthénon. Elle était très longue, et ses côtés furent façonnés selon le système de la façade. On fit le toit avec des feuilles de mangle, et nous laissâmes des jours pour que l'intérieur fût éclairé. Cependant, la journée s'avançait. Tout en travaillant pour Mélanie, je l'oubliais. Enfin, sur le soir, lorsque je vis que les nègres pouvaient finir tout à eux seuls avec mes instructions, j'accourus à la maison. J'entrai et je vis Mélanie, qui, les yeux rouges, était assise sur la porte. Aussitôt qu'elle m'aperçut, elle se mit à agiter son mouchoir, car la joie la suffoquait, elle ne pouvait parler. À cette action, je reconnus combien sa douleur avait été vive, et en une seconde je fus à ses côtés. « Méchant enfant !» me dit Madame Hamel, sans me demander d'où je venais. « Que vous nous avez causé d'inquiétude !»« Ne le gronde pas, ma mère, » répondit Mélanie. « Vois comme il en est fâché !»« Joseph, » ajouta-t-elle avec une charmante naïveté, « je ne te dirai pas que tu m'as fait mal, parce que tu aurais trop de chagrin. » Elle se mit à essuyer la sueur de mon front et à caresser mes cheveux avec une attention pleine de grâce. « Lorsque je ne t'ai plus vue, j'ai pleuré, » me dit-elle. « Je n'ai pas vécu cette journée-ci. Il faut la rayer du nombre des jours que Dieu m'accordera. Méchant, comment as-tu fait pour t'éloigner de moi? Si ce fut pour une bonne action, je ne te pardonnerai jamais de m'avoir laissé à l'habitation. » Ne voulant pas dire mon secret, je gardai le silence, ce qui étonna Mélanie. Elle me regarda d'un air boudeur qui la rendait charmante, par la difficulté qu'elle trouvait à faire paraître sur son visage une expression disgracieuse. En se couchant, elle me dit, en grossissant sa voix, « Je ne te souhaite pas une bonne nuit. » « Et moi, Mélanie, » lui répondis-je avec douceur et en souriant, « je supplie le Tout-Puissant de répandre le charme des plus beaux songes sur ton sommeil. » À cette réponse, elle fut un peu confuse et se coucha en murmurant « Pourquoi aussi ne me dit-il pas ce qu'il fait ? Il semble que la jalousie soit un sentiment dont le germe est naturellement en nous et que la civilisation ne l'ait point créé. » Le lendemain, ma sœur vint à moi et, m'embrassant avec un air repentant, elle me dit avec tendresse « Je te demande pardon, mon frère. Tu n'en as pas besoin. » Et je l'embrassai avec ivresse. Madame Hamel nous pressa tour à tour sur son sein en s'écriant « Heureux enfant, conservez bien la pureté de votre âme !» Nous nous regardâmes, nous deux, Mélanie et moi, sans pouvoir comprendre le sens de ces paroles. Je les comprends maintenant. Après le repas, j'emmenai Mélanie et je la conduisis au Val Terrible par un chemin qui devait la mettre brusquement en face du spectacle qu'elle avait souhaité. Presque tous les nègres marrons étaient de la côte de Guinée et ils chantaient en chœur une chanson de leur pays. Cette sauvage mélodie allait admirablement à ce site pittoresque et elle vint frapper nos oreilles. « Ce sont nos noirs !» dit Mélanie en arrivant à la vallée. Elle fait un pas de plus, jette un cri d'étonnement, elle me regarde, se précipite dans mes bras, et sur sa joue en fleurs roulèrent les larmes d'une joie céleste. Elle entra dans la chaumière que nous nommâmes le temple. Quelles sont les paroles qui pourraient rendre les charmes d'un pareil moment? À quelque temps de là, une aventure vint m'éclairer sur la nature du sentiment que je portais à cette sœur trop chérie. Il y avait parmi les nègres marrons un noir de la Côte d'Or d'un naturel extrêmement féroce. Les mauvais traitements qu'il avait subis avaient aigri son caractère. Il fuyait ses compagnons de malheur, il errait dans les endroits les plus escarpés et les plus sauvages, rien ne pouvait l'adoucir. Mélanie entreprit de le ramener. Un jour, le voyant assis sur un quartier de roche, elle me dit « Il est impossible, Joseph, qu'il y ait des êtres complètement méchants. On peut se tromper, mais personne n'a dit au fond de son cœur « Je veux être cruel. » Ce nègre regarde le ciel. Or, cette seule action m'indique que nous réussirons. » Aussitôt, elle se mit en marche et nous arrivâmes à ce noir qui ne s'enfuit point selon sa coutume. Il regarda même Mélanie d'une manière qui me déplut. « Bon nègre, » dit ma sœur avec une voix douce à laquelle rien ne résistait, « pourquoi restes-tu toujours seule? Pourquoi te réfugies-tu dans des antres sauvages au lieu d'habiter des grottes charmantes? » « Parce que je suis malheureux, parce que je hais les hommes. » « Veux-tu que nous t'apportions de la nourriture? Tu n'auras pas la peine de la chercher? » « Non, C'est peut-être une amorce pour me charger de chaînes et me ramener à mon maître.
Mais pourquoi brises-tu des arbres et troubles-tu l'eau des fontaines? Tu déchires des oiseaux. C'est mal, cela.
Il faut bien que je rende tous les maux qu'on m'a faits. Allez-vous-en, je ne puis vous voir. »
Tout en parlant ainsi, il jetait des regards farouches sur Mélanie, en paraissant ne pas me voir. Son œil exprimait un sauvage désir, et alors des idées vagues vinrent troubler mon cerveau. «
Allons-nous-en, » dis-je à Mélanie. Et ma sœur, plaignant le nègre malheureux, laissa tomber sur lui un coup d'œil de compassion et de tendresse naïve qui le fit tressaillir.
« Le malheureux !» s'écria-t-elle.
Et tout en se retournant, elle le regardait toujours. Je vis le nègre rester à la même place en contemplant Mélanie. Il ressemblait de loin à une statue de bronze. Lorsque nous fûmes trop loin pour qu'il pût nous voir, il s'élança et nous suivit toujours jusqu'à ce que nous arrivâmes vers l'habitation. Le lendemain, lorsque nous nous promenâmes en apportant des douceurs à nos pauvres nègres marrons, je vis ce même noir nous épier avec soin et se cacher pour admirer Mélanie. Nous étions assis sur une pelouse à côté de notre temple, nous causions. J'entendis un léger bruit dans le feuillage. Et, portant mes regards vers l'endroit d'où partait ce frémissement, j'aperçus les deux yeux noirs de ce nègre qui dévorait Mélanie. Une peur mortelle glissa son froid glacial dans tous mes membres, et je fus comme charmé par l'infernal regard de ce noir. Alors, j'eus une connaissance confuse des dangers que courait Mélanie, et appelant par son nom un nègre qui avait son refuge à deux pas de là, je réussis à reprendre courage lorsque je le vis accourir. Aussitôt j'entraînai Mélanie à notre habitation avec une promptitude dont elle ne devina pas la cause. Pendant plusieurs jours, j'allai dans la forêt sans Mélanie, et j'eus la force de résister à ses prières. Cependant, un matin, elle fit tant que je l'emmenai. Jamais, je crois, je ne l'avais vue si jolie et si séduisante. Lorsque nous arrivâmes au milieu de la forêt, non loin du val terrible, j'entendis les pas d'un homme qui marchait derrière nous. Je me retourne et j'aperçois le nègre. Une sueur froide me saisit.
« Marchons plus vite !» dis-je à ma sœur.
Vains efforts, le nègre fondit sur Mélanie, et la prenant dans ses bras, il s'élança vers les montagnes avec la rapidité de l'éclair. Je le suivis en courant de toutes mes forces et en faisant retentir la forêt de mes cris de détresse. En poursuivant le nègre, je le forçais à la retraite, et tant qu'il courait, j'étais tranquille sur le sort de Mélanie, dont les pleurs et les sanglots me déchiraient le cœur. Elle se débattait avec son ravisseur et retardait sa fuite. Mais ce dernier atteignit un endroit écarté, et là, déposant à terre Mélanie, il la couvrit de baisers. Non, jamais un homme ne connaîtra la rage qui s'alluma dans mon âme. Je volais avec la vélocité de l'aigle à travers les pointes de rochers qui me mettaient les pieds en sang, et je ne sentais aucune douleur, tant les feux de la colère me brûlaient. Enfin, sur le haut de la roche, deux nègres parurent, semblables à deux chasseurs qui accourent pour empêcher un tigre de dévorer une jeune biche. Je fus en même temps qu'eux aux côtés du nègre, qui fut massacrée impitoyablement par les deux marrons. Mélanie ne fut pas témoin de ce meurtre, je l'avais prise dans mes bras. Et, rapide comme une flèche, je l'emportais à travers les rochers, que je descendais avec une aveugle fureur en les teignant de mon sang. Ma sœur pleurait à chaudes larmes, obéissant à un vague sentiment de pudeur qu'elle n'aurait pu définir. Et moi, pendant ce temps, je l'inondais de baisers enflammés, cherchant ainsi à la purifier et à effacer la souillure imprimée par ceux du nègre effronté.
« Ah oui, embrasse-moi » s'écriait-elle en sanglotant.
Ce moment m'éclaira. Je vis quelle était la nature de l'amour que je portais à ma sœur.
« Monsieur !» dit Marguerite en interrompant sa lecture.
« Notre pauvre vicaire a encore bien pleuré à cet endroit-là. Tenez !»
Et elle montra le manuscrit à M. Gauss.
« Le malheureux !»
s'écria le bon curé.
Alors, continua la servante, je n'aperçus aucun mal dans ce sentiment. Ignorant comme des créoles, n'ayant aucune idée des prohibitions des lois humaines, je fus ravie. Je me livrai au doux charme de trouver une maîtresse, une amante, une épouse dans ma sœur, et je me gardai bien de l'instruire des découvertes que j'avais faites dans mon propre cœur. Une joie céleste vint jeter son baume rafraîchissant sur la plaie passagère que venait d'ouvrir le nègre, et je bénis en quelque sorte cette aventure. Je revins avec Mélanie chagrine, car les farouches baisers de son noir ravisseur lui restaient sur les lèvres, et maintes fois elle y portait la main en s'essuyant avec dépit. Alors je la comblai de mes caresses, et ces caresses eurent dès lors un autre caractère. Alors je questionnai fréquemment Madame Hamel, les nègres, tout le monde. Je fus plus attentif à tous les mystères de la nature. Enfin, une nouvelle source de pensée et de mélancolie vint augmenter mes réflexions habituelles. Je me souviens, avec un charme mêlé de honte, de ce temps délicieux où mes sentiments prirent une teinte indécise de sensualité divine, où je donnais à ma sœur des baisers qui l'étonnaient elle-même. Confuse et rougissante, elle appuyait sa tête sur mon sein et semblait provoquer mes caresses. Alors je n'étais pas criminelle, j'avais le cœur pur. Cette passion qui jetait alors en moi de si profondes racines, elle est criminelle aujourd'hui. Et cependant, malgré tous mes efforts, elle ne mourra qu'avec moi. Quelque temps après cet événement, ma sœur, qui croissait en grâce et en beauté, et dont l'esprit était au moins à la hauteur des perfections du corps, devint aussi rêveuse, et son charmant visage se couvrait parfois d'une rougeur subite. Un jour, me prenant par la main, elle me dit avec une espèce de solennité « Viens, mon frère, allons au temple, là j'aurai quelque chose à te dire. » Nous marchâmes en silence, en nous jetant des regards furtifs, ainsi qu'Adam et Ève lorsqu'ils eurent mangé la pomme fatale. Il semblait que nous nous comprissions parfaitement l'un et l'autre. Nous arrivâmes à notre banc de mousse au pied de notre temple. Pour faire passer dans l'âme des autres le ravissement qui vint saisir la nôtre par degrés, il faudrait pouvoir asseoir en ce moment ceux qui liront cet écrit sous le papayer qui nous ombrageait, et leur faire voir les magnifiques couleurs dont les montagnes étaient parées. L'azur foncé de l'indigo teignait le milieu des rochers. Leurs cimes arrivaient par des teintes insensibles, alors le plus brillant, et leur forme pyramidale tranchait vivement sur un ciel d'une ravissante pureté. La mer roulait de petites vagues d'argent, la végétation variée de l'Amérique étalait ses teintes vigoureuses, et le soleil à son couchant, donnant une touchante mélancolie à ce tableau, imprimait à l'âme un mouvement indéfinissable. Ce fut en face de toutes ces merveilles que Mélanie, après me les avoir montrées par un regard plein d'enthousiasme, me dit d'une voix altérée « Mon frère, je ne sais plus comment je t'aime. Tes regards portent le trouble dans mon âme, et quand tu n'es pas près de moi, je te désire comme le prisonnier doit désirer la liberté, l'aveugle la lumière. À force de penser à toi et à ce que j'éprouve, j'ai vu que l'amour dont je t'entoure n'est pas l'amour que je porte à la bonne Madame Hamel. Je voudrais apprendre de toi, si, quand mes yeux sont fixés sur les tiens, tu éprouves le même trouble que moi. Je n'ose plus te regarder qu'en secret, c'est-à-dire lorsque tu ne me vois point. Et alors, je trouve à te contempler une douceur infinie que je ne connaissais pas encore, et qui, chaque jour, devient plus forte et plus vive. Oh, ma sœur, m'écriai-je en lui prenant la main, un feu terrible me brûle, et depuis quelque temps j'ai reçu une nouvelle vie. Nous nous appartenons l'un à l'autre pour toujours. Tiens, vois-tu, je serai pour toi comme Cani pour sa femme. Tu seras mon épouse et je serai ton mari. Il n'y a que ce moyen, mais il faut une cérémonie, un serment. « Allons donc, dit-elle. « Jure bien vite, et prenons toute cette vallée, cette mer et ces montagnes à témoin. Joseph, toi, tu dois te mettre à genoux. » Je m'agenouillai effectivement. Elle prit ma main dans la sienne, son visage devint d'une étonnante gravité. Et alors, levant mon autre main vers le ciel, je lui dis « Mélanie, je te jure de n'aimer jamais que toi. Le reste des femmes ne sera jamais rien pour moi. Tu es pour toujours ma sœur et ma femme. » Je me rassis à ses côtés et elle me dit avec un sourire et une naïveté enivrante « Moi, je ne me mettrai pas à genoux. » « Je jure, » reprit-elle en me lançant tous les feux de l'amour dans un regard, « je jure de n'aimer que toi. » Puis, se jetant dans mes bras, elle me couvrit de baisers. Le flambeau de cet hymen fut le soleil, les témoins, le ciel et la mer, et la nature dut sourire aux simples caresses qui terminèrent cette scène enfantine. Dès lors, je ne sais quelle tranquillité se glissa dans nos âmes. Nous fûmes heureux et rien ne manqua à notre bonheur. Notre vie coula pure comme l'eau d'un ruisseau qui court sur un sable doré. Mélanie avait alors 13 ans et moi j'en avais 16. Un matin que je bêchais et que ma sœur brodait, Monsieur de Saint-André se montra dans notre avenue et en 2 sauts nous fûmes dans ses bras. Il admira la rare beauté de ma sœur ainsi que ma taille élancée et il parut content. « Mes enfants, nous dit-il, la France est enfin pacifiée. Ce sont des énigmes pour vous que de telles paroles, mais vous me comprendrez quand je vous dirai que votre père n'est plus proscrit. Il quitte l'Amérique. Le souverain de notre pays m'a donné le commandement d'un vaisseau avec le grade de contre-amiral et je viens vous chercher pour vous emmener en France. Vous allez revoir votre patrie et connaître les jouissances de la vie sociale. Toi, Mélanie, » et sa voix avait un accent de tendresse qu'il ne put cacher, « ta beauté te rendra l'objet de l'hommage de tous les hommes. Vous, Joseph, » sa voix devint plus sévère, « vous allez réparer le temps perdu et vous instruire pour vous faire un état, un nom et arriver à des places éminentes. » Ces paroles furent pour moi l'objet d'un long commentaire. J'eus beaucoup de peine à les comprendre, et pour être franc, je dois dire que d'abord je ne les compris pas. Le lendemain, mon père nous quitta, se rendit à C, où il vendit l'habitation de Madame Hamel. 3 jours après, nous étions dans une frégate et nous voguions vers la France. Chapitre 10. J'ai déjà dit que Monsieur de Saint-André avait dans le caractère une rudesse et une sévérité terribles. J'en acquis la preuve pendant les premiers jours de notre navigation. Il ne laissait passer aucune faute, et les lois de la discipline maritime, de cette discipline qui confère une si grande autorité au capitaine, étaient observées avec une ponctualité qui montrait combien on craignait mon père. Au bout d'une 15 jours, pendant lesquels mon père m'observait avec attention et paraissait satisfait de moi, il arriva qu'un chef de matelot, j'ignore quel grade il avait, commit une faute qui fut d'autant plus sévèrement punie que Monsieur de Saint-André paraissait avoir une haine secrète contre le coupable. Ce matelot, nommé Argot, était un de ces hommes que la nature semble ne pas avoir achevé, court, trapu, large vers les épaules et la poitrine, ayant une grosse tête et une horrible expression de férocité. Il régnait parmi tout cela un air de majesté sauvage qui révélait une énergie rare et de l'intrépidité. Son coup d'œil annonçait que, dans le danger, il exécutait promptement ce qu'une sagacité naturelle lui dévoilait comme le meilleur parti. Du reste, ivrogne, sale, brutal et ambitieux. Lorsque dans l'histoire Gregorio Leti et autres me montrèrent Cromwell, sur le champ je me rappelais Argot, et je crus avoir vu le célèbre protecteur de l'Angleterre. Ce matelot, connaissant l'humeur de Monsieur de Saint-André, subit sa punition sans mot dire et avec une résignation qui surprit tout l'équipage. Mais il jurait en lui-même la perte du contre-amiral, et la grandeur de l'entreprise ne l'épouvantait en rien. Ceux qui virent son air rêveur, sa figure sombre et les regards qu'il lançait sur mon père, jugèrent qu'Argot méditait quelque hardi projet. Comme ce matelot avait une espèce d'ascendant sur ses camarades, ils se firent part mutuellement de leurs pensées. Et sans qu'Argot eût encore rien dit, leurs esprits étaient préparés à quelque ouverture. Lorsque ce chef fut libre, il commença par prendre à l'écart ceux qu'il connaissait pour être ses amis, et il les sonda pour savoir s'ils coopéreraient à son dessein. Un soir, lorsque tout était tranquille dans le bâtiment, que le mari de Madame Hamel, dont on se défiait le plus, faisait son quart, que les officiers, les capitaines en second et mon père, renfermés dans leur chambre, ne pouvaient voir ce qui se passait, je fus le témoin inaperçu d'une singulière scène. Car, curieux comme je devais l'être à mon âge, et ayant remarqué certains mouvements parmi l'équipage, je m'étais caché dans l'embrasure d'un canon, et, protégé par l'ombre, voici ce que j'entendis.
« Il est là-haut !» disait le matelot à Argot. « Mais qu'en veux-tu faire ?»«
Ce que j'en veux faire !» répondit Argot à voix basse et entremêlant d'horribles jurons à tous ses propos. « Je veux qu'il entre dans nos projets ou dans le ventre d'un poisson. Il est dévoué au commandant, et si monsieur de Saint-André, se voyant le plus faible, voulait nous mettre à la raison, il serait capable, sur un ordre, de mettre le feu à la Sainte-Barbe. » À ces mots, je reconnus qu'il s'agissait du maître canonnier.
« Nous ne l'attirerons jamais ici. Il faut seulement, s'il est contre le bastingage, lui donner un coup de coude. »«
1000 boulets !» répondit vivement Argot. « Nous n'aurions plus de poudre. Il a la clé de la soute. » Ils restèrent quelque temps à réfléchir, mais Argot rompit le silence en disant « Je m'en charge. Fais descendre tout notre monde dans la cale. » J'ignore ce que devint le pauvre maître canonnier. Tout ce que je sais, c'est que, lors de l'événement, je vis l'homme auquel Argot venait de parler, revêtu des habits particuliers du canonnier qu'il remplaça. En entendant l'ordre d'envoyer l'équipage à fond de cale, je m'y glissai et je me tapis dans un coin obscur. Ce fut le premier spectacle que me donna la société. Cette scène avait pour acteurs les plus grossiers des hommes, et comme ils ne retenaient point l'expression de leur passion, j'en vis le jeu à découvert. Chaque matelot descendit avec précaution. Toutes ces figures sauvages et animées sur lesquelles se gravait ingénument la crainte, car ils redoutaient encore leur conscience, formaient un tableau vraiment remarquable. Un murmure s'éleva lorsque Argot parut avec son lieutenant. Il s'alla placer devant un affût, chacun se groupa autour de lui, les uns sur leurs provisions, les autres sur les tonneaux, tous dans des postures originales et l'œil fixé sur le chef de la sédition. Quand ce dernier les vit attentifs, il promena sur eux son œil pénétrant et leur adressa le discours suivant. « Si je ne vous connaissais pas, et que le capitaine ne m'eût pas injustement puni, je n'aurais jamais songé à saisir l'occasion qui se présente pour nous de faire fortune. Les trésors que renferme le bâtiment nous auraient passé devant le nez, sans que l'un de vous eût pensé à devenir riche et heureux tout d'un coup, sans qu'aucune puissance humaine puisse nous atteindre. Mais j'ai compté sur votre courage, et je vois que je ne m'y suis point trompé. Maintenant, nous sommes tous liés les uns aux autres, car monsieur de Saint-André nous ferait tous pendre aux vergues et ferait le service avec ses officiers, plutôt que de faire grâce à l'un de nous. Flatmer, John et Tribel vous ont instruit séparément de ce que je vais vous expliquer d'une manière plus claire. Triple bordée, mes amis. J'enrage lorsque j'examine notre genre de vie. Traîner sur les ponts ce boulet infernal, toujours travailler, durement mené, sans consolation, sans avenir, sans pain, qu'avons-nous fait pour mériter un pareil sort? Nous sommes venus au monde de la même manière que ceux qui sont riches et qui dorment dans de bons lits, sans être toujours séparés de la mort par quatre planches pourries. Lequel, à votre avis, vaut mieux ? De risquer une ou deux fois sa vie pour être heureux, ou bien de vivre comme des rats dans un égout, de dormir dans un entrepôt et de gober l'air par le trou d'un sabord ? Voici mon projet. Le convoi de la Havane va passer demain. Il n'est escorté que par un vaisseau de 76 canons. Notre frégate n'en a que 20. N'en eut-elle pas du tout ? Je vous promets que nous aurons jusqu'à la dernière piastre des Espagnols. Mais pour cela, et pour avoir le droit de parcourir toutes les mers en nous enrichissant et en ayant soin de tout couler bas pour que l'on ignore nos manœuvres, il faut commencer par expédier ceux qui nous gênent là-haut. Ils sont tous réunis dans le même endroit. Il ne s'agit, lorsque je sifflerai le branle-bas, que de pointer deux ou trois pièces sur les chambres. Et alors, laissez-moi faire. Je ne demande le commandement que pendant 24 heures. Quand nous serons maîtres du bâtiment, alors nous organiserons la manœuvre. En avant !» Pendant ce discours, les figures de tous ces gens peignaient une foule de sentiments divers. Lorsqu'il fut terminé, un geste impératif d'argot empêcha les acclamations. « Que chacun, dit-il, vienne à son tour me jurer obéissance pour 24 heures, et qu'il se rende ensuite à son poste en silence. » Parmi les gens de l'équipage, il n'y eut qu'un mousse qui refusa obstinément de coopérer à cette conspiration. Argot le fit garder à vue. J'étais rempli d'épouvante. Néanmoins, le danger que couraient Mélanie et mon père me rendit de la force. Je réussis à m'échapper, et j'arrivai, pâle et blême, à la chambre de Monsieur de Saint-André. « Nous sommes morts !» lui dis-je. Il se mit à rire. « Tout l'équipage vient de jurer de se défaire de vous. C'est Argot qui est le chef du complot. » Alors il commença à réfléchir. « Où sont-ils ? » fut sa première question. « Dans la cale !» répondis-je. Monsieur de Saint-André, s'habillant à la hâte, prit son porte-voix en m'ordonnant de réveiller tous les officiers. Un coup de sifflet particulier, suivi des cris répétés de branle-bas, retentit dans tout le bâtiment. « Hamel, quittez votre quart et fermez les écoutilles !» Mon père était tranquille, comme s'il eût fait une partie de piquet. Les officiers se réunirent autour de lui, et Hamel vint rejoindre ce groupe peu nombreux. On chargea l'écoutille de la cale de tout ce que l'on put trouver, et l'on entendit alors un effroyable tapage à fond de cale. « 3 minutes pour rentrer dans le devoir !» s'écria Monsieur de Saint-André. « Sinon vous serez tous pendus. Nous voyons l'hirondelle, à laquelle je vais faire tirer les coups de détresse, et vous n'échapperez pas. » Le silence le plus profond fut la seule réponse des matelots. Monsieur de Saint-André tira froidement sa montre. « Que ceux qui se soumettent disent leur nom !» cria Hamel. On ne répondit pas. Les officiers se jetaient des regards inquiets, car un pareil silence annonçait quelque ruse, et ils savaient Argot capable des choses les plus audacieuses. Les 3 minutes expirées, Monsieur de Saint-André ordonna à tous les officiers de diriger le bout de leur pistolet sur l'ouverture, et, commandant à Hamel de débarrasser le plancher, il se disposait à descendre, lui seul, sans armes, lorsque des cris de « Victoire ! Victoire !» retentirent sur le second pont et dans tout le bâtiment. Argot avait démoli le fond de la soute, et comme il s'était emparé de la clé de la porte, au risque de faire sauter le bâtiment, il venait de conduire ses gens par la soute. Et parvenu au second pont, au-dessus de celui où se trouvait M. de Saint-André, il s'emparait de la frégate. Alors, fermant à son tour le pont, il mit les chefs dans l'embarras, où ces derniers croyaient plonger l'intrépide matelot. M. de Saint-André, regardant les officiers, leur dit « Messieurs, un peu de hardiesse, et nous devons les surprendre !» Les officiers, promenant leurs regards sur l'entrepont, semblaient répondre au contre-amiral « Par où voulez-vous sortir ?» Mon père se mit à sourire en comprenant leur tacite demande, et il s'écria à voix basse « Ils sont dans l'ivresse du succès, et attendent de nous de la ruse plutôt que de l'intrépidité. Passons hardiment par les sabords et prenons le pont à l'abordage. mais ne paraissons tous ensemble sur divers points qu'après être restés un instant immobiles en dehors du navire. » Le dernier venait de sortir quand Argo entr'ouvrit l'écoutille, et me voyant seul, il fut stupéfait, entouré de la plus grande partie des matelots aussi surpris que lui. Il ne comprit la manœuvre de Monsieur de Saint-André que quand celui-ci fut le maître du pont. En un clin d'œil, la scène prit un aspect formidable. L'état-major, rangé sur un côté du tillac, combattait avec le courage du désespoir, secondé par l'intelligence. Et les matelots, ne s'attendant pas à une attaque aussi brusque et aussi vigoureuse, avaient été obligés de plier et d'aller se rallier plus loin. Il y en avait 7 à 8 étendus par terre et baignés dans leur sang. Ce fut en ce moment que le terrible Argo parut, le blasphème à la bouche. Un des matelots, effrayé et doutant du succès, s'était avisé de demander à parlementer. Dans le premier instant de terreur, les gens, sans écouter Argo, se tournèrent vers le groupe d'officiers. Et ce qui rendit cette disposition des esprits plus stable fut que le farouche matelot brûla la cervelle à celui qui parlait de se rendre, en alléguant qu'il lui avait tout juré obéissance. Monsieur de Saint-André perdit tout par son inflexibilité, car, sur la demande des matelots, il répondit qu'il les voulait tous à discrétion. Sa sévérité était tellement connue que lorsqu'Argo cria « Et le convoi, allons, ferme !» tout l'équipage tomba sur le groupe d'officiers, et après un léger combat, ils furent dispersés. Un canonnier attacha Monsieur de Saint-André au grand mât. Tous les officiers, contenus et désarmés, se rangèrent autour de lui.